Je suis maître de conférence en psychologie sociale pour l'université de Paris 11 et j'ai travaillé plusieurs fois sur Godin. Disons, j'étais d'abord co-scénariste d'un téléfilm qui était diffusé sur FR3 il y a quelques années. Et puis j'ai écrit une thèse d'état sur des expériences très précises de Godin dans le domaine qu'on pourrait appeler la psychologie industrielle ou psychologie du travail. Alors là, je vais quand même ne pas parler de psychologie du travail aujourd'hui, et je vais parler surtout de l'habitat et du système que Godin met en place dans son familistère. Alors, j'ai donné un intitulé à la présentation de ce soir, je l'ai appelé « Modèle dérivé » ou « Marmite libératrice ». Je vais quand même déjà tout de suite éclaircir ce titre. Modèle dérivé, j'ai volé les mots à Henri Desroches, et qui a écrit un texte très important sur le fourriérisme et la succession du fourriérisme. Ce texte s'appelle « La société festive ». Et donc, il situait Godin en tant que modèle dérivé du fourriérisme. Alors, les termes me plaisaient et je les ai gardés. Quant aux mots « marmite libératrice », je les ai empruntés à Arthur de Bonnard. Arthur de Bonnard est un médecin homéopathe qui est rattaché à des tas de courants et qui est fourriériste et qui fait une partie de sa carrière dans le cadre fourriériste et qui signe ses textes sous le nom de Gallus. Et il a publié ce texte merveilleux qui s'appelle « La marmite libératrice ». C'est par la marmite qu'on va libérer le peuple, etc. Donc je le prenais. Alors je signale quand même, parce que je suis très choqué de voir les livres qui partent à la casse avant de partir au confetti, que ce livre est au rayon ésotérisme, c'est pas du tout un texte ésotérique, mais il est au rayon ésotérisme d'une bibliothèque qui s'appelle Mona Lisée, et qui est vers les Halles. Bon, maintenant je vais parler de Godin. Avant de parler de son habitat, qui s'appelle le familistère, je vais présenter un peu Godin toute sa vie. Alors d'abord, il est d'une famille de serruriers. Il habite dans le département de l'Aisne. Il naît en 1817. Il commence donc dans l'atelier de la famille. Ensuite, il fait un tour de France qui dure 2 ans, un tour de France de compagnons. C'est lors de ce tour de France qu'il réalise ce qu'est la misère du monde ouvrier. Le travail qui dure plus de 12 heures par jour et tout ça. Bon. Il fait connaissance avec la pensée de Cabet, avec la pensée de Saint-Simon et avec des groupes de réformateurs de ce type. Alors, il s'oppose à Cabet, je reprends ses mots. Son communisme implique une règle uniforme et sacrifie l'individu à la masse. Et il s'oppose aussi à Saint-Simon. Il dit « Saint-Simon n'a pas de théorie. Ses idées sont à l'état d'ébauche. C'est un levain pour l'avenir, des idées politiques, mais ce n'est pas la lumière attendue. Ce n'est pas la science. » Et il croise aussi un autre courant, qui est le courant de l'abbé Châtel. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de l'abbé Châtel, qui est un peu une espèce de vieux fou qui intervient dans certaines églises et qui se veut comme le grand réformateur. Alors là, il dit, l'abbé Châtel parla de la philosophie, de la vertu des grands hommes, et je sortis avec le cerveau aussi affamé de la solution du bien et du mal que mon estomac l'était de mon souper. Voilà. Alors donc, tous ces courants qu'il aperçoit, il les condamne. Après, il revient dans son pays, après ce tour de France, et il monte son premier atelier de fabrication de poêles en fonte. C'est lui qui a l'idée, je crois que c'est le premier, à utiliser la fonte pour la fabrication des poêles. Son entreprise fonctionne pas mal, et vers 1842, il découvre le fourriérisme. Il le découvre dans la presse régionale, comme ça, on parlait de Fourier et de sa pensée. Alors Fourier est déjà mort, bien sûr, mais il existe en France un courant fourriériste, un courant de pensée important, qui publie des revues. Il y a une revue qui s'appelle La Phalange, qui est importante, qui est dirigée par Victor Considérant. Alors, il découvre ça, il s'abonne tout de suite à La Phalange, il achète des livres de Fourier, il prend contact avec le groupe de Considérant, qui est à Paris. Il découvre cet univers et il est parmi maintenant les compagnons fourriéristes. En 1848, bien sûr, il est pour la République et il se trouve être à Paris le 23 février, le grand jour, le jour important. Alors voilà comment il dit les choses, parce qu'il est avec le groupe de Victor Considérant et donc d'autres fourriéristes au siège de la démocratie pacifique. et sans doute aussi dans la rue. Ça, il n'insiste pas, dans son livre « Solutions sociales », parlait de son rôle dans la rue. Le 23, Paris avait l'aspect d'une ville en révolution. Le 24, je vis le peuple entrer aux Tuileries et leur royauté partir pour l'exil. Un instant après, j'aidais à afficher sur les murs du Carrousel et dans les rues de Paris un placard rédigé par les rédacteurs de la démocratie pacifique. J'étais allé à Paris pour voir une manifestation et j'avais vu une révolution. Le suffrage universel était conquis et la République proclamée. Alors, à partir de là, Godin va partir dans les démarches des fourriéristes et ils partent en campagne pour les élections et pour l'Assemblée constituante. Donc, tous les membres de l'école sociétaire se veulent un petit peu, les termes que j'utilise là sont un peu contemporains et pas contemporains de Godin, ils sont les nôtres, ils se veulent un peu les unificateurs de la gauche. Il y a deux documents qui m'intéressent pour voir cette idée dans le courant fourriériste. Il y a une lettre qui est publiée, qui est sans doute rédigée par Considérant, et qui est expédiée à tous les fourriéristes. Cette lettre, elle utilise le mode impératif. Provoquez partout la création de sociétés de discussion. Mêlez-vous activement aux sociétés qui se créeront en dehors de votre initiative. Attirez à vous, autant que possible, les instituteurs, les médecins, les percepteurs. N'oubliez ni les prêtres, qu'il faut entraîner dans le sentiment démocratique, ni les femmes, que nos idées sont aujourd'hui propres à rallier. Chaque village a un orateur, tâchez de faire sa connaissance, emparez-vous de lui, inculquez-lui nos tendances, envoyez à la Chambre le plus de socialistes possible, sans distinction d'opinion ni de couleur. Donc voilà ce que veut le groupe de la démocratie pacifique à ce moment-là. Et dans leur presse, ils disent, il ne s'agit plus de détruire, la besogne est faite, il faut organiser. Et il s'agit d'arriver à un ralliement de tous les socialistes. Donc Godin est candidat à la Constituante, il appartient à une liste du département de l'Aisne, il publie sa profession de foi, qui est assez timide, il parle de l'intérêt individuel, il parle du travail organisé, il parle des droits de la femme, il insiste là-dessus, de l'instruction qu'il faut donner à tous les enfants du peuple. Bon, sur sa liste, on voit tous ces mots qui sont là. Il se présente, il n'est pas très convaincu de son succès. J'ai trouvé dans sa correspondance justement des tas de mots où il dit « Bon, vraiment, j'ai aucune chance, mais j'y vais quand même. » Enfin, même si ça n'apparaît pas, bien sûr, dans ses tracts, dans sa correspondance parallèle, on le voit très nettement. Bien sûr, il n'est pas élu. Et donc, c'est par cet échec qu'il commence sa carrière politique. Après, il y a Napoléon III, enfin, il ne s'appelle pas encore comme ça, il s'appelle Louis-Napoléon, qui est élu, et il y a une grande division de toute la gauche et de tous les courants socialistes. J'ai trouvé là aussi quelque chose d'intéressant, c'est Proudhon qui s'attaque complètement au groupe de la démocratie pacifique. Il dit, la démocratie pacifique, c'est une sorte de déversoir de toutes les folies, absurdités, impuretés de l'esprit humain. Ce déversoir a pour enseigne le nom du plus grand mystificateur des temps modernes, Fourier. On s'est mis à prouver que Fourier était le continuateur de Jésus-Christ. Accuser, calomnier, dénoncer le citoyen Proudhon. Une attaque de plus ou de moins ne peut plus m'émouvoir. Votre parole est comme un cuivre enduit de plomb, une cymbale fêlée. Vous êtes mort, vous dis-je, mort et la démocratie, à la démocratie et au socialisme. Après toute cette division de la gauche, il y a une opposition aussi à la gauche. Considérant fuit en Belgique, il aurait été arrêté, il est obligé de s'exiler. Il y en a beaucoup qui vont s'exiler en Suisse, en Belgique. Il y en a qui sont arrêtés. Godin, lui, il n'est pas arrêté, il est perquisitionné plusieurs fois. On pense qu'ici, il n'a pas été obligé de partir à ce moment-là. C'est parce que son usine avait grandi. C'était plus le petit atelier qui fabriquait les premiers poêles en fonte. C'était une usine qui s'était déplacée, qui était arrivée dans la ville de Guise, petite ville de Guise. Et il y avait 300 personnes qui travaillaient pour lui. Il y a toute cette division, cet écartèlement des courants. Alors, Considérant, donc, commence par être en Belgique et puis il part aux États-Unis. Et là, il est au Texas, il découvre le Texas avec un fourriériste américain qui s'appelle Brisbane. Et sur cette espèce de terrain vierge du Texas, il est persuadé d'avoir trouvé le pays pour fonder le premier vrai phalanstère tel qu'il rêvait. Et il revient en Belgique, et là il écrit encore à tous les fourriéristes, et il dit « il faut qu'on monte toute cette affaire du Texas ». Donc pour lui, il faut se désengourdir, il faut s'affranchir du découragement, des torpeurs, il faut abandonner la somnolence morale et la résignation sénile qui asphyxie le socialisme. Donc il veut monter un mouvement de colonisation qu'il appelle colonisation européo-américaine, et pour donc monter cette colonie, ce phalanstère au Texas. Alors il publie un livre qui s'appelle « Au Texas », je crois. 3 mois après, il y a déjà plus de 300 personnes qui sont prêtes à partir. Et en octobre 1954, le premier bateau quitte la France et part au Texas. Je ne vais pas raconter tout l'épisode du Texas. Godin, lui, était sûr de partir au Texas. Il était resté en France parmi les gens qui maintenaient en place le bureau. Il écrivait pour donner des conseils, pour faire des projets, etc. Et il était sûr de partir. Il pensait les rejoindre avec une équipe qu'il avait pensée. Je vais vous lire 2 extraits de lettres de Godin à ceux qui sont au Texas. La première ligne que je vous lis, c'est les lettres donc écrites par notre Godin hygiéniste. Hygiéniste, mais pas tout à fait féministe, bien qu'il parle de la liberté de la femme, il n'en parle pas ici, puisqu'il recommande d'urgence l'achat d'une buanderie. Je vous lis son argument. « Quand j'envisage le besoin que nos amis auront de ce meuble, donc la buanderie, en raison du peu de femmes qu'ils auront avec eux, il n'y a pas hésité un seul instant. » Bon, ça me plaît. Et puis, l'autre détail qui m'intéresse, c'est le dirigeant. Et comment il donne des conseils pour obtenir l'obéissance. Il parle de l'art d'utiliser les hommes. Alors il dit « L'art d'utiliser les hommes, sans trop les gouverner ni les conduire, réside dans l'art de diriger les choses. Il faut quelques hommes d'une foi qui ait puissance d'entraîner les gens au travail. » Donc on fait semblant de ne pas diriger les hommes, on dirige à côté. C'est le chef qui parle là. Il n'ira jamais au Texas. Il rompt complètement ses relations avec Victor Considérant. Il se fâche vraiment, mais il reste en relation avec pas mal de fourriéristes. Je pense à un fourriériste, je sais pas, qui s'appelle Docteur Savardan. Et je pense à Arthur de Bonnard, l'auteur de La Marmite. Godin, il a perdu une grosse partie de sa fortune, mais il lui en reste quand même. Il veut toujours cette société idéale. Donc, c'est dans son usine qu'il va essayer de la monter. Avant de revenir sur la construction, tout ce qu'il monte dans son usine, je voudrais quand même terminer le parcours de Godin et qu'on arrive jusqu'en 1888. Pendant tout le Second Empire, il reste opposé à Napoléon III. Au moment de l'avènement de la République, en 1870, il reste directeur de son usine et il est élu à la Chambre des députés. Là, il commence à avoir un certain rôle. Il est proche de gens comme Littré, il réside à Versailles. Et il est très déçu de tout ce qu'il propose à l'Assemblée, parce que tout ce qu'il propose tombe à l'eau. Je donne un petit exemple, ça se passe en janvier 1873, il y a un projet pour la limite d'âge des enfants au travail. Ce qui est demandé par l'Assemblée, c'est l'âge de 10 ans. Et alors Godin, timidement, fait tout un travail, et il demande que cette limite d'âge soit 12 ans. Et pas 10 ans, et son projet ne passe pas. En 1873, la limite d'âge pour les enfants, le travail des enfants, c'est 10 ans. Alors que dans l'entreprise Godin, c'est 12 ans. Après cette carrière à la Chambre, il retourne à Guise, et là, il veut aller beaucoup plus loin. Et son idée, c'est d'arriver à monter une espèce de nouvelle structure juridique de son entreprise qui donne aux travailleurs, employés et ouvriers, progressivement, une certaine propriété de leur outil de travail. Alors, cette société sera fondée en 1880 sous l'intitulé « Société du Familistère de Guise, association coopérative du capital et du travail ». Toute sa vie, il a essayé de faire connaître ses idées. Il a publié 7 ouvrages petits ouvrages ou gros ouvrages, comme celui-là, qui s'appelle « Solutions sociales ». Tous les tirages restent limités. Il a une bonne presse, mais ça ne va jamais très loin. Il publie aussi des revues. Alors, une revue importante qui tient très longtemps, qui s'appelle « Le Devoir », qu'il commence à publier en 1878. Actuellement, on appellerait ça de la presse d'entreprise, mais avec des idées sociales qui vont plus loin. Cette revue, Le Devoir, il voudrait en faire quelque chose qui aille plus loin. Il voudrait en faire un journal des réformes sociales. Et il essaie d'être pour ce travail avec des gens plus connus que lui, parce qu'il reste quand même l'industriel provincial. Et par exemple, il essaie de mettre sur son projet quelqu'un comme Élie Reclus, le frère d'Élisée, qui a joué un rôle en 48 et en 70. Alors, il appelle Élie Reclus au moment de l'amnistie, parce que Élie Reclus était obligé d'être en exil politique après la Commune. Il voudrait que Élie Reclus s'installe avec lui à Guise pour tenir ce journal. Alors, Élie Reclus est prêt à lui donner des conseils, mais pas à s'installer définitivement à Guise. Il publie ensuite une autre revue qui s'appelle « Études sociales » à partir de 1884, mais il n'y a que 12 numéros qui paraissent. Ou 10 numéros même. Il se lance encore dans une autre revue en 85 qui s'appelle Le Désarmement Européen. C'est une revue tout à fait pacifiste. Ça s'appelle Le Bulletin de la Paix. Désarmement Européen, Bulletin de la Paix. C'est intéressant d'apercevoir cette revue parce que Godin, là, on voit qu'il est un homme politique d'une certaine manière en avance sur son temps. Je prends juste un exemple. Cette revue est publiée au moment où il y a les premiers essais de conquête coloniale à Madagascar, premiers essais qui précèdent le premier protectorat. Et Godin est tout à fait opposé à cet essai colonial à Madagascar. Il dit que nos droits sur Madagascar sont identiques aux droits de l'Allemagne sur l'Alsace-Lorraine. Laissons Madagascar aux Malgaches jusqu'à ce qu'ils éprouvent le besoin de se mettre en relation avec nous. Alors je trouve quand même assez intéressant qu'on puisse écrire ça en France en 1885. Godin meurt en 88 et sa femme, Marie Moret, publie après sa mort 3 volumes biographiques. Maintenant, je voudrais parler de Guise, de son habitat et de tout le système qui se monte, tout ce que j'appellerais son laboratoire social. Les fourriéristes étaient expérimentalistes, mais leur point de départ, le point de départ de Considérant et des autres, je pense au Texas, c'était un terrain nu sur lequel tout était à construire, tout était à bâtir. Il fallait trouver l'outil de travail, il fallait trouver les finalités du travail, le marché, etc. Bon, Godin est beaucoup plus pragmatique. Il veut faire son essai de laboratoire social fourriérisant, disons, dans un cadre qui existe. Et donc, son outil de travail, il va le trouver dans son usine. C'est son usine de production, son système de distribution qui existe, qui sont en place, qui vont devenir le cadre de son expérience. Je pense réellement qu'il veut pratiquer cette étude de la société et il veut en faire une science. Pour lui, c'est une science naissante qui demande des observations, des essais, des erreurs et donc des expériences. Il n'utilise pas le mot échantillon, mais j'ai envie de l'utiliser lorsque je le vois en action dans son usine. C'est qu'il considère la population de son usine et de son habitat comme un échantillon de population à étudier, et à partir des résultats observés sur cette population, on pourra aller plus loin et étendre le système à une population plus large. Il a l'idée de se donner comme modèle et d'être imité après dans d'autres cadres. L'élaboration de son laboratoire social, je le vois en 3 morceaux. Son premier principe, c'est que la solidarité, l'union d'une population qui est indispensable, ces deux points sont dépendants du mode d'habitat de la population en question. Et donc, il faut arriver à concevoir cet habitat comme le creuset d'une cohésion sociale. Donc, il va penser un habitat en pensant à cette idée de cohésion sociale. Son second principe, c'est que cette population qui réside dans cet habitat, il faut qu'elle soit instruite, ou au moins à la recherche d'une instruction. Donc, il va ajouter à son habitat tout un système d'enseignement pour les enfants et un théâtre pour lieu de perfectionnement de connaissances des adultes. Théâtre dans lequel il y aura des pièces de théâtre, des concerts, des conférences, etc. Et troisième point important, donc là on voit il y a l'habitat lui-même, il y a tout ce qui est instruction à côté de l'habitat. Et troisième point, c'est les activités de cette population. Il ne faut pas que cette population se contente de partager son temps entre sa maison et le travail. Il faut qu'elle ait autre chose en plus du travail. Il faut qu'elle ait des tâches, il faut qu'elle ait des loisirs, il faut qu'elle ait des rôles pour arriver à l'ancrer dans le système. Donc, il va monter des systèmes de loisirs communs, il va donner aux gens des responsabilités collectives, et pour arriver à l'impliquer, et pour parvenir plus tard à lui donner des pouvoirs de décision. Donc c'est à partir de ces trois points que je vais aborder les choses. Alors je commence par l'habitation. Premier point qu'il faut savoir, c'est que cette question du logement ouvrier est très présente chez tous les réformateurs sociaux au XIXe siècle, ou les industriels progressistes. Ils veulent par là éviter la dispersion des populations. Mais à partir de ce point commun à beaucoup de gens, il y a deux voies qui se dessinent. Il y a la voie de l'habitat individuel, les cités ouvrières, et il y a la voie de l'habitat collectif. Alors, pour l'habitat individuel, il y a des exemples, il y en a beaucoup. Je pense au travail de Dollfuss à Mulhouse, qui travaille avec un architecte qui s'appelle Émile Müller. Émile Müller, architecte de Dollfuss, prend contact avec Godin, d'ailleurs, pour avoir des informations sur son système, sur ce qu'il pense, etc. Il y a aussi Schneider au Creusot, c'est aussi un habitat individuel. Jules Chagot à Montceau-les-Mines. Bon. Ce sont des cités donc dans lesquelles les habitats sont les uns à côté des autres. Chacun a sa petite façade, son petit balcon, toujours le même, et son petit bout de jardin par derrière. Et dans lesquelles n'habitent que les travailleurs. Quelquefois, ça va assez loin. Il y a les plus grands pour les employés, les plus petits pour les ouvriers. Godin, lui, veut pas de cet habitat individuel. Et il s'inspire du phalanstère fourriériste. Et il veut un habitat collectif. Et il veut arriver à le dénommer le palais social. Un mot très important pour lui. Pour justifier l'idée d'habitat unitaire, il dit « L'isolement des habitations est non seulement inutile, mais nuisible à la société. Il constitue le plus grand obstacle à l'organisation des lumières et à l'organisation du bien-être. » Il veut arriver à donc cet habitat. Il commence à penser à tout ça en 1857. Il fait venir à Guise un architecte qui s'appelle Albert Lenoir, qui est fourriériste et qui est collaborateur d'un autre architecte qui s'appelle César Daly. Et je rappelle pour les gens de la bibliothèque que César Daly était inscrit à cette bibliothèque où nous sommes. Donc Albert Lenoir vient à Guise et il propose sans doute un projet un peu trop somptueux à Godin, qui n'en veut pas. Godin va dessiner lui-même son habitat modèle. On a des problèmes pour préciser tout ça, parce qu'on n'a pas retrouvé les plans eux-mêmes. Lui dessinait très bien, effectivement, pour toutes ces choses-là. Je pense qu'il devait être l'auteur de ces plans, mais je pense qu'il devait être aussi entouré, quand même, d'entreprises de construction de la région. Il ne peut pas avoir fait tout ça lui-même, quoi, et conçu tout ça. Bon, pour l'instant, disons qu'on n'a pas trouvé d'autre auteur que Godin pour l'architecture de cet habitat. Et il a l'intention, en le concevant, de partager son palais social avec ses ouvriers. Donc il va habiter, lui, dans ce palais social dès le début. Et là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Et ce détail étonne beaucoup ses contemporains. J'ai trouvé dans un texte d'Émile Cacheux, pour ceux qui s'occupent de l'urbanisme du 19e siècle, on le connaît, il précise bien sûr qu'il s'est réservé un appartement pour démontrer qu'il était possible au patron de vivre avec les ouvriers. Il veut aussi faire cesser la spéculation. Alors là, je vais utiliser un texte de Arthur de Bonnard, dit Gallus, non pas la marmite, mais un texte qu'il publie dans l'Almanach de la coopération 1867, édité chez Abel Davo et Noirot. Je souligne, Noirot était aussi inscrit à la bibliothèque ici. Ce texte est intitulé « Monsieur Vautour et Gallus ». Alors, Monsieur Vautour, c'est le salopard. Et Gallus, c'est de Bonnard. Et tous ces textes sont des dialogues, comme ça, entre Monsieur Vautour et Gallus. Alors, je vais essayer de faire les deux rôles à la fois. Monsieur Vautour, oh le gueux, Gallus. Du calme, Monsieur Vautour, du calme. Monsieur Vautour, cela vous est facile à dire, mais si comme moi vous perdiez votre argent, oh le gueux, le triple gueux, oui, votre Godin est un misérable, un homme de rien, pour tout dire en un mot, un voleur. Gallus, mais enfin, je ne vois pas ce qu'il vous a fait. Est-ce que vous avez contre lui, Monsieur Vautour? Vous ne voyez pas? Eh bien, écoutez. Quand j'appris que Godin allait établir une grande usine à Guise, petite ville morte et sans industrie, je me dis, il y a un bon coup à faire. Bien plus sûr que toutes les spéculations de la bourse, et ce coup, le voici. L'industrie appelle autour d'elle la population, et la population a besoin d'être logée. Or, les ouvriers qui constituent cette augmentation n'ont pas le premier sou pour devenir propriétaires, mais ils payent bien quand ils travaillent, si surtout on a soin de les faire payer d'avance, ce qui met le propriétaire à même de les jeter à la porte au premier retard. Je priais donc un de mes gendres, M. Griffard, notaire, de faire acheter par dessous main, au fur et à mesure qu'elles seraient à vendre, les maisons voisines de l'usine, qui seraient propres à loger tous ces vauriens que Godin, jamais je ne consentirai à dire Monsieur Godin, que Godin donc traînait à sa suite pour les grouper autour de sa fabrique. L'opération réussit, à merveille. Je louais mes chambres la semaine au prix de 1 franc dans les premiers temps, puis 1 franc 25, ensuite 1 franc 50, j'en étais à 2 francs, ce qui fait 104 francs par an, soit 100 francs net en retranchant les contributions. Gallus, mais dans les années bissextiles, comment vous y preniez pour ne pas perdre un jour, Monsieur Vautour? À ma foi, je n'avais pas pensé. Il est évident que j'étais volé. Bon, mais laissez-moi continuer. Vous voyez que mon opération, sauf la petite erreur des années bissextiles, était bien calculée. Au commencement, j'obtins 5% du prix d'achat. L'année passée, j'avais atteint 10%. Et je voyais, pour l'avenir, un revenu croissant indéfiniment. C'était magnifique. Lorsque ce gueux... Est-ce que la justice restera toujours muette et inerte? Est-ce que les honnêtes gens vont être livrés sans défense en pâture aux anarchistes? Est-ce que le gouvernement, défenseur né de la société, n'enfumera pas ce nid de guêpe? Vous parlez de guêpe, Monsieur Vautour? En face de la plus belle ruche qui ait jamais été construite pour les abeilles travailleuses, le Familistère, rappelez-vous que depuis le commencement du monde, jamais palais aussi merveilleux n'avait été bâti. Toutes les fois que je passe devant, je me découvre la tête, comme fait tout bon catholique en entrant dans une église. Et savez-vous pourquoi c'est le plus beau de tous les palais? Savez-vous pourquoi c'est presque un temple, tandis que vos maisons n'étaient que tanières, ce qui permettait à l'ouvrier de dire comme son divin maître le Christ, le fils du charpentier, qui avait choisi tous ses apôtres dans l'humble classe des travailleurs? Les oiseaux du ciel ont leur nid, les renards ont leur terrier, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Monsieur Vautour, Gallus, vous êtes un anarchiste. Déjà, dans votre marmite libératrice, qui est le pot-au-feu du diable, vous avez prêché les doctrines les plus subversives. C'est vous, avec cet infâme Godin, qui êtes la cause de toutes les révolutions. Alors, j'ai laissé la parole à Gallus pour présenter le palais social. Je vais maintenant essayer de le décrire. Il y a un plan, là, on voit qu'il y a 3 bâtiments. Là, je vais commencer par quelques lignes de Gallus. Il y a ces 3 bâtiments qui communiquent entre eux. Les cours intérieures dont sont couvertes, comme à l'hôtel du Louvre et au grand hôtel, de sorte qu'on y circule à l'abri de la pluie et de la neige, et que les enfants y prennent leur récréation sous les yeux de leurs parents. Aux divers étages du Familistère sont de larges balcons courant tout autour des bâtiments et servant de rue-galerie. Les enfants sont donc surveillés, non seulement par leurs parents, mais encore par tout le monde. Et il y a un rez-de-chaussée et 3 étages. Le développement total du palais est de 450 mètres. Les cours sont pavés d'un ciment dur et unis comme l'asphalte. 10 passages au rez-de-chaussée servent de communication entre les cours intérieurs. La place centrale extérieure, la rue et les jardins. Ces passages donnent accès en même temps aux escaliers. Ces escaliers sont placés dans les angles des parallélogrammes. Ils conduisent aux galeries qui, à chaque étage, servent de communication entre les logements. Point important pour Godin. Donc il y a cette communication des trois espaces entre eux. Et les points importants, c'est la lumière, l'air, la circulation de l'air, l'eau et le propre. Alors là, je vais prendre des petits morceaux dans Solutions sociales qui décrivent très bien les choses. Autour du palais, ne peuvent exister des matières en putréfaction ni des eaux croupissantes. Les égouts et les citernes ont leur siphon. Aucune émanation n'y est possible. Des trottoirs, de vastes cours extérieurs, des pelouses, des jardins cultivés et des allées servant de promenade font au Familistère les abords largement ouverts dans lesquels l'air s'épure au contact de la végétation sans rencontrer des causes méphitiques ni délétères. Le renouvellement de l'air nécessaire à la ventilation des cours et des appartements est obtenu par de larges ouvertures souterraines, ménagées au nord dans les jardins, derrière le palais. Ces ouvertures de 4 mètres environ de côté traversent le sous-sol des habitations. Donc il y a un sous-sol, hein, il y a des ouvertures qui vont de l'extérieur vers l'intérieur. Ça c'est une idée de Godin qui est tout à fait extraordinaire parce que ça rafraîchit l'air de la cour en été. Et l'hiver, on referme ces ouvertures et ça tempère la température intérieure, donc en hiver. Donc c'est chauffé en hiver et climatisé en été. C'est par une circulation souterraine d'air. Alors je crois que, hélas, depuis cette époque-là, des travaux ont été faits et ça n'est plus en place. Bon, l'idée est là, hein, il faut... Tous les appartements du palais ayant vue sur la cour intérieure d'un côté et sur les façades extérieures de l'autre. Il veut absolument qu'on ait des fenêtres des deux côtés pour aérer justement. Ça donne un libre accès de toutes parts à l'air pur venant des jardins et des vergers pour l'aération des logements. La différence d'équilibre qui existe presque en permanence entre l'air extérieur et celui se dégageant sous les vitrines des cours intérieures produit dans le palais une douce ventilation dont on jouit souvent très agréablement dans la saison d'été. À propos de l'eau maintenant, il a mis au point un système de lavoir, parce qu'il ne faut pas laver le linge à l'intérieur des espaces d'habitation, il faut le laver à l'extérieur. Donc il a créé un établissement spécial qui est placé près du palais, qui sert au lessivage et au lavage du linge, qui reçoit des eaux chaudes des ateliers industriels. C'est-à-dire que pour refroidir les pièces de fonte, on les trempe dans l'eau. L'eau est réchauffée. Et en général, cette eau réchauffée, dans les autres usines, elle part à la rivière. Là, il la récupère. Et elle circule dans des canalisations. Elle réchauffe l'eau du lavoir. Après quoi, elle continue. Ces canalisations d'eau chaude sont dans un espace où on fait sécher le linge. Donc, il y a de l'eau chaude pour lessiver le linge en 1858. Et donc, des séchoirs. Alors, j'aime bien les mots quand même qu'il utilise. Rien n'est préjudiciable à la salubrité du logement comme les lavages permanents et imparfaits auxquels le plus souvent l'intérieur du ménage ouvrier est assujetti. Non seulement on y respire les exhalaisons de la malpropreté du linge, mais ce qui est plus grave, on y respire les émanations des eaux de lavage tombées sur le sol et qui, après avoir pénétré dans l'épaisseur des planchers ou des carrelages, s'en dégagent lentement, nuit et jour, en vapeur fermente et cible, nuisible à la santé. Le logement converti en buanderie, revêt toujours l'aspect le plus repoussant qu'il soit possible de lui donner. La famille de l'ouvrier se trouve ainsi dans un état permanent de malaise. Il faut au palais social enlever à l'ouvrier les motifs d'éloignement de sa demeure. Il faut que son logement soit un lieu de tranquillité, d'attrait et de repos. Voilà donc tout son côté hygiéniste à propos de la lessive dans l'appartement. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut laver ailleurs. Autre point important, c'est la propreté des gens. Alors, ils ont déjà l'eau à tous les étages, mais il met au point des cabinets de bain. Alors, il y a des cabinets de bain qui existent au Familistère en deux endroits différents. au rez-de-chaussée. Ces cabinets sont chauffés par la vapeur de la machine alimentant les fontaines à tous les étages. Cette vapeur, en passant dans un serpentin, chauffe l'eau d'un réservoir et met ainsi en permanence à la disposition de la population l'eau chaude nécessaire aux bains et aux services généraux du Familistère. Avec cette eau chaude et celle des réservoirs d'eau froide placés dans les combles de l'édifice, on a pu combiner, dans l'intérieur même du palais, à côté des cabinets de bain dont nous venons de parler, toutes les ressources de l'hydrothérapie et établir des douches d'une grande puissance. Donc il y a bain et douche dans son habitat. Et, chose encore plus étonnante, il y a une piscine. Ces eaux alimentent aussi, dans le même établissement, une piscine de 50 mètres carrés de surface où les habitants peuvent se baigner en pleine eau et en nombre à toute heure du jour. Cette piscine est pourvue d'un fond de bois pouvant descendre à 2,50 m de profondeur et être ramenée à la surface de l'eau afin de permettre de ménager aux baigneurs la profondeur d'eau qui leur est nécessaire. Cette piscine peut servir ainsi aux groupes d'enfants de différents âges et aux baigneurs et baigneuses qui ne savent pas nager. Là, on voit toute l'idée de la lumière, de l'air, circulation de l'air, de l'eau, du propre. Et on va arriver au cabinet d'aisance, qu'on appelle les lieux. Et qu'est-ce que Godin dit de ces lieux? Il met en place des cabinets d'aisance inodores, bien éclairés le jour par de grandes croisées, et la nuit par le gaz, parce qu'effectivement, il y a dans la cour du Familistère, pour l'éclairage de nuit, un système de lampe à gaz. Il y a donc un allumeur de réverbère dans l'espace. Et donc, les cabinets d'aisance, inodores, sont éclairés la nuit par le gaz. Il y a un côté des dames et un côté des hommes. Il y a des sièges à cuvettes inodores, et il y a des cuvettes inodores à fleurs d'une aire de ciment. On appellerait ça à la turque, je crois. Ces cuvettes servent aussi de tuyaux de descente pour les eaux ménagères. Un robinet donne de l'eau à volonté dans ces cabinets. Il y a aussi des urinoirs au rez-de-chaussée. Alors, ce que j'ai trouvé, un manuscrit, mais non, c'est plus un manuscrit parce que je l'ai décrypté et c'est un truc qui est publié. J'ai trouvé un petit cahier manuscrit merveilleux qui s'appelait le cahier des avis divers, dans lequel avaient été rassemblés tous les avis affichés dans l'habitat collectif entre 1862 et 68. Et à partir de là, on n'a plus l'officiel de l'affaire, on a ce qui se passe, ce qu'on dit aux gens qui habitent là-dedans. On les informe de quoi on leur parle. Alors, il y a des tas de choses comme le prix du pain, l'annonce de fête, on va revenir dessus, l'annonce de conférence, mais il est aussi question... Dans ces avis, il est aussi question des lieux d'aisance. C'est le 23 décembre 1865. Donc c'est un petit avis, il faut l'imaginer, affiché dans l'habitat. Il y a des hommes au Familistère qui se croient distingués et qui, au lieu de se placer au-dessus de la cuvette des lieux d'aisance, se mettent au beau milieu des cabinets pour faire leurs ordures. Que de petits enfants se conduisent ainsi, cela est excusable. C'est aux bonnes mères à leur apprendre à bien faire, mais les grandes personnes qui font cela et qui voudraient passer pour des gens de mérite ont encore bien à changer d'elles-mêmes pour avoir de la valeur. Ces personnes-là sont assez sales pour salir le mur avec le bout de leurs doigts. Oui, il y a des sanctions prévues, il y a des amendes qui vont dans une caisse spéciale, hein, qui vont dans une caisse de secours. Parce qu'on a surpris Monsieur X en train de vider son pot dans la fontaine. J'ai tout ça ici. À propos du propre, là, des personnages étrangers au Familistère, soit parents, amis ou connaissances des habitants, y font souvent des malpropretés nuisibles au bon ordre. Parce que les personnes chez lesquelles elles viennent négligent de leur montrer comment elles doivent se comporter. Des avis ont déjà fait connaître aux habitants qui sont responsables de ces faits. En conséquence, ben voilà, vous avez une amende là. En conséquence de faits passés pendant la fête de la Saint-Éloi, la famille Raquet est à 1 franc de frais de propreté pour les personnes qu'elle a reçues et qui ont fait leurs ordures en plein urinoir. Le nommé Bouchard ouvrier de l'usine est à un franc d'amende pour avoir personnellement pissé dans le vestibule d'entrée. Des personnes s'introduisent dans les cabinets à sièges avec des clés artificielles et montent sur les sièges au lieu de s'y asseoir. 5 francs de réparation au moins seront imputés à la première personne qui sera convaincue de l'une de ces infractions. En premier, on disait qu'il y a quelqu'un qui a fait telle chose, sans donner de nom. Et s'il n'y a pas eu réparation de la chose, on donne le nom. C'est allé même dans certains cas jusqu'à l'exclusion de certaines personnes. Habitants dans l'espace, il devait être un millier. Il y avait à peu près 300 travailleurs de l'usine, donc il y avait leur famille. Au moment où les trois bâtiments, les trois ailes étaient construites. Alors, on va passer aux ordures. Il a prévu ce qu'on appellerait, nous, vide ordure, et qui s'appelle la trappe à balayure. Et il y a donc à tous les étages des colonnes qui descendent et dans lesquelles on jette les ordures. Dans Solution Sociale, il indique qu'un large conduit permet aux balayures de descendre dans le sous-sol, d'où elles sont enlevées tous les jours par les gens de service. Et à propos de la trappe à balayure, je vais vous lire un avis parce que ça va assez loin dans le mode d'emploi, je dirais. Les habitants sont priés d'observer que le cabinet aux ordures ne doit recevoir que des balayures, les cendres des fourneaux et toutes les matières sèches. Le tout doit être jeté dans les ordures et non déposé sur le carré. Les matières humides qui sont susceptibles de sentir mauvais et celles qui ne pourraient pas passer entre les barreaux devront être descendues et mises au fumier. Un panier est placé dans chaque cabine, donc c'est l'espace, une petite pièce fermée, où les mères de famille devront mettre les épluchures de légumes qui pourraient servir à la nourriture des bestiaux. Donc, il y a plusieurs types d'ordures. Il y a les ordures qui vont pourrir, donc on va les mettre au fumier. Il y a les ordures sèches et il y a les ordures qu'on peut récupérer, qui vont servir de nourriture aux bestiaux. Il continue, c'est pour avoir du lait pour donner aux petits-enfants. C'est une bonne œuvre proposée à tout le monde sans qu'il en coûte rien qu'un peu d'attention. Et il y a encore, il y a des commerces au Familistère. Il y a une boucherie, il y a une épicerie, il y a une boulangerie, il y a un marchand de bois, un marchand de charbon, un endroit où on vend des vêtements. Tous les commerces sont là, ils sont regroupés, ils sont à gauche, en bas à gauche, là sur le plan qui est ici. J'aime bien ce que Gallus dit de ces commerces. Les mauvaises pensées viennent de l'estomac. C'est le plus tyrannique, le plus anarchique de tous nos organes. Quand il crie la faim, garde sous. Si Bria Savarin, de gastronomique mémoire, a fait la physiologie du goût, moi j'ai fait la physiologie de l'estomac comme organe révolutionnaire. Et j'ai vu que s'il prêchait la révolution avant dîner, il prêchait toujours la conservation au dessert. Un philosophe de ma connaissance disait plaisamment « La révolution est une question de beefsteak ». Monsieur Godin sait jusqu'à quel point les épiciers sont amis de l'ordre. Il sait qu'un grand nombre parmi eux méritent d'être élevés à la dignité de caporal dans la garde nationale. Aussi n'a-t-il pas manqué de faire de tous les locataires du Familistère des épiciers. À cet effet, il a fondé, dans un des magasins du rez-de-chaussée, une épicerie véridique. J'appuie sur ce mot, monsieur Vautour, vous en connaissez l'importance. Là, plus de faux pois, plus de marchandises frelatées, plus de café avarié ou mélangé avec de la chicorée, voire même avec des mares ramassées au coin de la borne, plus de sacs en papier chargés de grès ou de plâtre et pesés avec la marchandise, plus de poivre fait avec de la terre d'Auvergne mélangée avec les balayures du comptoir, plus d'huile d'œillette vendue comme huile d'olive, plus de marchandises logées dans les caves pour en avoir besoin, mais y absorbant de l'eau qui augmente leur poids. Là, plus de chocolat à la farine vendue comme chocolat extra fin. Monsieur Vautour, en avez-vous fini avec votre kyrielle? On dirait que vous avez été épicier. Voilà. Donc, il y a des commerces au Familistère. Et il y a, bien sûr, un service médical. Il y a, je crois, 2 médecins et une sage-femme qui sont attachés à l'espace. Alors, je continue avec Gallus. plus de rachitisme, plus de scrofules, plus de phtisie, plus de ces ulcères dégoûtants, image des ulcères dans notre société rongée et qui s'appelle le paupérisme, la fainéantisme par désespoir, l'ivrognerie, la prostitution, le vol. Le médecin du Familistère, ne sachant à quoi passer son temps, s'est fait bâtir une petite maison sur les bords de la rivière et pêche à la ligne par sa fenêtre. De 5h du matin à 10h du soir. Cela ne l'empêche pas de toucher de bons appointements, car on le paye d'autant plus qu'il a moins de malades et que les maladies sont plus lestement guéries. Du reste, c'est un homme de progrès, comme tous les amis de M. Godin. Honteux de son oisiveté forcée, il se propose d'ouvrir incessamment un cours dans lequel il donnera à ses auditeurs bénévoles des connaissances élémentaires mais suffisantes sur la physique, la botanique, l'anatomie, la physiologie et l'hygiène, ou art de bien se porter tout en étant un bon vivant. Je reçois à l'instant une lettre dans laquelle on m'annonce que le pharmacien, voyant ses drogues inutiles pourrir dans la cave, a pris une résolution suprême et s'est fait cuisinier. Monsieur Vautour, cuisinier, quel abaissement, Gallus. Vous vous trompez, monsieur Vautour. Dans l'avenir, la première des académies sera l'académie de cuisine. Elle sera autant au-dessus de l'académie de médecine que la santé est au-dessus de la maladie, qu'un soulier neuf est supérieur à une vieille savate. Dans l'avenir, les médecins seront aux cuisiniers ce qu'aujourd'hui les savetiers sont aux cordonniers. Médecins et savetiers travaillent sur le vieux qu'ils rafistolent tant bien que mal, tandis que les cuisiniers et les cordonniers travaillent sur le neuf. Monsieur Vautour, ah mais vous mettez tous en dessus dessous. Certainement, vous, monsieur Vautour, qui allez à la messe et pratiquez, vous avez oublié ces belles paroles du sauveur du monde. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Est-ce que le roi prophète, le grand David, n'a pas dit de son côté « Et surientes, simple et vite, boni... » Je supprime le reste. Monsieur Vautour, je ne sais pas le latin. Ce n'est pas exigé pour être caporal de la garde nationale et défendre l'ordre public. Gallus. Cela veut dire, il a fait boire le meilleur vin à ceux qui travaillent et la piquette aux fainéants. Monsieur Vautour, alors c'est un socialiste, il faut le mettre au violon. Gallus répond, c'est du Père éternel que parle David. Eh bien quoi ? Répond Monsieur Vautour. Gallus, vous voulez mettre le Père éternel au violon ? Monsieur Vautour, vous m'entortillez, je crois que j'ai dit une bêtise. Voilà pour l'habitat. Deuxième ensemble pour Godin, c'est l'instruction. Et là, il suit un petit peu Flora Tristan. Il dit, ouvrier, si vous voulez sortir de l'état de misère où vous êtes, instruisez-vous. Il parle d'éducation intégrale et d'instruction intégrale. Et là, j'ai envie de faire un lien avec les mots qu'utilise Bakounine lorsqu'il parle de l'instruction. Pour lui, c'est aussi l'instruction intégrale. Alors, pour cette instruction intégrale, Godin répertorie 8 classes. Et il précise les âges dans son ensemble scolaire. Il commence par la nourricerie. La nourricerie, c'est l'endroit où on accueille les enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 26 à 28 mois. Ensuite, il y a le pouponnat. C'est pour la catégorie des petits bambins, depuis les enfants sachant marcher et se tenir propres jusqu'à l'âge de 4 ans. Après le pouponnat, il y a le bambinat, catégorie des enfants de l'âge de 4 à 6 ans. Après, il y a la petite école, ou troisième classe de l'enseignement, élève de 6 à 8 ans, la seconde école, ou deuxième classe, élève de 8 à 10 ans. Ensuite, il y a la première école, ou première classe de l'enseignement, 10 à 13 ans. Ensuite, il y a les cours supérieurs, catégorie hors classe, élève dont l'intelligence s'est montrée hors ligne. Ensuite, il y a l'apprentissage, entrée de l'enfant à la vie productive. Alors tout ça, c'est un enseignement gratuit dans l'établissement. Donc, il a mis en place tout ce système. Alors, il a retrouvé, bien sûr, tous les mots de Fourier. Le pouponnat, la nourricerie, le bambinat, ils sont l'ami Charles. Il n'est sans doute pas allé aussi loin que ce que Fourier aurait voulu dans son système. Mais il y a un point commun dans leurs travaux, c'est que Fourier voulait séparer tout de suite les enfants des parents. Godin va pas aussi loin, il les sépare quand même pas toute la journée, mais il les sépare quand même parce qu'il veut éviter l'influence trop importante du cadre familial. Il écrit « L'éducation sera imparfaite tant que le père et la mère seront seuls à veiller sur les enfants. » Et cette séparation, c'est pour aider les enfants et c'est pour aider les parents aussi. Pour Godin, s'il y a une absence de culture dans le milieu ouvrier, c'est que les ouvriers ont trop de travail, manque de temps, c'est un frein à l'instruction. Et ils se privent de ce qu'il appelle la nourriture de l'esprit. Donc il veut, en séparant les enfants des parents, libérer les parents pour que les parents se cultivent, s'instruisent. Alors, la nourricerie, le pouponnat, je vais donner comme ça quelques détails. La nourricerie, le pouponnat, c'est pour les tout-petits. On a une image d'une dame en train de nous montrer ce qu'il y a dans le matelas. Donc, il y a des berceaux spéciaux. Dans ces berceaux spéciaux, il y a des matelas en son. Au Familistère, le coucher de l'enfant est toujours sec et sans odeur. Les berceaux se composent d'un ovale en tringle de fer rond porté par deux montants. Un à chaque extrémité. Celui de la tête forme la flèche du rideau en s'élevant au-dessus du lit. Le tout est fixé sur deux pieds en fonte reliés par une traverse. Les berceaux sont ainsi portatifs et légers. Une toile en fort coutil, lacée sur l'ovale du fer, compose le corps d'un berceau très gracieux. Le matelas est formé de 30 à 40 litres de gros son bien bluté, mis dans le fond de cette toile et recouvert d'un petit drap. Cette couche ne se pénètre pas d'humidité. Au lever de l'enfant, le son humide se trouve aggloméré en mottes qu'on enlève facilement avec la main ou avec une petite raquette en fil de fer. Et on ajoute de temps en temps un peu de son nouveau et celui qu'on retire, pour cause d'humidité, peut être donné aux animaux de la basse-cour. Autre chose, dans le pouponnat, cette salle est divisée en deux parties par une balustrade. Il y a une balustrade ici, elle est mesurée 76 cm de hauteur. La partie de droite, en entrant par le vestibule, sert aux nourrissons. La partie de gauche sert aux exercices des poupons, aux petits bambins. La première contient un plancher en ellipse de 3 mètres de long sur 2,50 mètres de large, monté sur roulette afin de permettre de le déplacer pour faire la propreté à la place qu'il occupe. Ce plancher est entouré de deux petites balustrades de 38 cm de hauteur, pas 40, 38, distance l'une de l'autre de 62 cm. Les enfants les plus jeunes sont mis en liberté sur ce plancher. Et c'est dans l'espace compris entre les balustrades qu'ils s'exercent à faire leurs premiers pas en se servant des mains courantes comme appui. J'aime bien, là on n'a peut-être pas le temps de voir ça, mais comment Godin décrit les activités des enfants ? Les enfants mangent à tour de rôle, à la cuillerée, sans vouloir prendre la part du petit voisin. Manger seul comme les grands dès qu'on devient grand soi-même. Se tenir bravement dans la promenade et croiser les camarades sans les renverser ni tomber soi-même. Aller par imitation et adroitement sur les petits sièges d'aisance entraînés par l'exemple de grands camarades du pouponnat, etc. Bon, ils donnent des normes comme ça de vie. Ils vont causer avec les petits amis, ils vont obéir aux bonnes, ils vont s'endormir sans pleurer. C'est merveilleux. Ça, c'est solution sociale. Et l'instruction au Familistère est très importante et elle est connue. Lorsque Ferdinand Buisson dirige la rédaction du fameux dictionnaire de pédagogie, il envoie quelqu'un au Familistère pour faire un travail sur le Familistère et il envoie Paul Robin. C'est un personnage important, franc-maçon, membre de l'International, section suisse, du courant libertaire de Bakounine. Il a été exclu par Marx en 71 de l'International de Londres. Il est influencé par Littré et il a dirigé dans l'Oise une institution scolaire qui s'appelle l'Orphelinat de Saint-Puis entre 1880 et 1894. Il a fait un travail très important. Il y a quelques publications sur Paul Robin qui sont intéressantes. Alors, c'est Paul Robin, je ne veux pas que je développe trop ce monsieur, qui me plaît aussi, qui vient au Familistère pour faire son article sur Godin. Il est enthousiasmé par tout ce qu'il voit. Hein. Il parle de Godin, dont le système d'instruction sur les enfants va avoir indirectement une réaction sur les familles, sur les parents. Et toute la vie de la famille. Il souligne aussi, Godin avait anticipé sur les programmes officiels d'histoire, parce que Godin voulait que l'histoire aille jusqu'à son temps, et alors que les programmes officiels s'arrêtaient avant la Révolution française. Godin avait dit, mais arrêtons, les Gaulois, non, on peut en parler éventuellement de temps en temps, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, c'est notre temps, c'est tout ce qui s'est passé depuis 1789. Ça, c'est très mal vu. Robin approuve beaucoup, bien sûr, tout ça. on veut, dans l'école du féministère, on veut arriver à un enseignement attrayant. Et on veut arriver à des méthodes tout à fait nouvelles. Donc on conçoit des systèmes nouveaux. Il y a une méthode de calcul qui s'appelle bûche et briquette, qui est mise au point pour l'apprentissage des mathématiques, du calcul. Il y a une méthode de lecture où dès que l'élève, l'enfant peut reconnaître trois lettres de l'alphabet, on lui donne un petit sac qui contient des caractères et puis il va s'exercer et construire tous les mots qu'il peut avec trois lettres. Bon, et le modernisme de Godin est de constituer des classes mixtes, alors que ça n'est absolument pas officiel et que c'est même très mal vu. Et cette mixité, bien sûr, elle est applaudie par Paul Robin, mais elle est obligée de choquer l'école traditionnelle. Et l'école du féministère est même obligée de fermer un certain temps en 1874. À ce moment-là, Godin est à la Chambre des députés à Paris, et on arrive à fermer les portes de son école pour deux raisons. Première raison, mixité. Deuxième raison, il n'y a pas de catéchisme, alors que c'est obligatoire. Il reçoit donc une lettre de l'inspecteur d'académie qui dit « Je suis informé que l'enseignement religieux n'est pas donné dans l'école que vous dirigez. » Et il rappelle que c'est une matière obligatoire. Et Godin, donc, qui est à Versailles, lui répond de manière assez insolente que l'absence de catéchisme n'empêche pas la présence de leçons morales très importantes dans son établissement. Il fait semblant d'être tout à fait naïf et il dit « Mais comment faire pour enseigner le catéchisme ?» Il demande des leçons, des conseils pédagogiques au ministère pour enseigner le catéchisme. Voilà les choses intéressantes dans son enseignement. Autre point important, c'est les fêtes scolaires et les récompenses. Le premier dimanche de chaque mois, il y a des défilés des enfants qui se présentent. Ils ont été les bons élèves, ils ont eu des décorations, des couleurs particulières, etc. Et il y a une espèce de petite fête le premier dimanche de chaque mois. Et il y a aussi une fête de l'enfance une fois par an, très importante. À propos des fêtes et des récompenses des enfants, on voit toute l'organisation. Alors ça, c'est un passage que j'ai relevé dans les avis. Et on demande aux parents de bien vouloir veiller à la bonne tenue de leurs enfants, qu'ils soient vêtus et couverts proprement, et que la joie et la satisfaction de tous les parents n'aient pas à souffrir de la négligence de quelques-uns. Toujours pour cette fête de l'enfance, il sera distribué le dimanche matin, en vue des illuminations du soir, à tous les habitants qui ont des fenêtres, sur les façades à éclairer, des bougies nécessaires. Donc on éclaire la façade avec des bougies qui sont distribuées dans les appartements. Et on leur précise qu'il faudra, dès que le coup de cloche aura sonné, à 8h du soir, allumer tous les bougies en même temps. Et on précise, bon ça c'est mon côté un peu négatif comme ça qui regarde, en cas de mauvais temps, les bougies devront être rendues pour servir à la fête du travail. Parce qu'il y a d'abord une fête de l'enfance, il y a aussi une fête du travail. Je peux vous dire des titres de morceaux de musique qui étaient chantés. Il y avait une chanson qui s'appelait « Les petits ouvriers ». Il y avait une chanson qui s'appelait « Les instruments de musique », une autre qui s'appelait « La bonne mère ». Était affiché un programme extrêmement détaillé de toute la fête. Et après, on terminait par examen des cahiers. Tous les enfants avaient reçu leurs cahiers et ils allaient les présenter à M. Godin, qui les regardait, et puis qui faisait circuler les cahiers, qu'ils soient vus par tout le monde, quoi. Bon, il y a aussi au Féministère un enseignement pour adultes. L'enseignement pour adultes est pratiqué par des gens qui vivent au Féministère, qui se dévouent à faire ça. Et ça se passe par semestre, je crois. Et Godin a aussi construit un théâtre, j'en ai pas encore parlé, où il organise des conférences. Il fait à la fois là, le culturel et le festif. Je voudrais rappeler que Fourier, lui, voulait construire une église et un opéra. Alors Godin a rayé radicalement l'église. Il est dans un moment sous le Second Empire où l'église est complètement associée au pouvoir, etc. Et l'opéra de Fourier, il le transforme en théâtre. Mais ce théâtre, lui-même, quand il en parle, il l'appelle temple. C'est intéressant, quoi. Il écrit, par exemple, le théâtre, comme salle d'enseignement et de conférence, doit devenir, pour toute la population, le temple de la religion, de la vie et du travail. Avec la pléiade de majuscules, temple, religion, vie, travail. Hein, c'est fou. Ce théâtre est très important, il existe encore, il a été restauré récemment. Et dans ce théâtre, Godin donne des conférences. Morale, conseil, etc. Et il y a aussi des conférences lorsqu'il veut temps des modifications dans l'organisation du système du travail. Et en particulier, je pense aux conférences qu'il donnait en 1877 et 1878, au moment où il avait des projets d'organisation de groupes de travail un peu nouveaux. Il était arrivé à 2 conférences par semaine. Sa secrétaire et épouse notaient tout fiévreusement et les docs sont encore en place, quoi. Troisième point important pour Godin, c'est toute l'organisation et les rôles qu'il attribue aux personnages de son groupe. Il arrive à faire de son familistère une combinaison de cellules sociales avec des rôles de départ fondamentaux, des corps sociaux de première utilité comme les pompiers. Il y a un groupe de personnel volontaire qui va être le groupe des pompiers du familistère, avec tout l'équipement le plus moderne qu'il pouvait avoir à ce moment-là. Il y a 4 comités de caisses de prévoyance, fondés en 1846, avant l'existence du familistère, pour qu'il y ait une espèce de sécurité sociale et une assurance maladie pour les travailleurs. Et il y a les conseils. Il y a un conseil des messieurs et un conseil des dames. Alors le conseil des dames est créé après le conseil des hommes. Les hommes sont 12 personnes vivant au familistère qui sont élues au suffrage universel de l'ensemble des habitants et qui vont représenter les habitants et pour Godin et être là pour prendre des décisions. Les fonctions de ces conseils, des 2 conseils, c'est initiative et observation. Ils ont la liberté de discussion pour règles. Le conseil des hommes s'occupe plutôt des questions d'amélioration dans le travail. Le conseil des dames s'occupe plus particulièrement de tout ce qui a rapport aux fonctions domestiques et de toutes les améliorations qui peuvent venir en aide au ménage. Donc ces 2 conseils ont des rôles importants. Et il y a aussi des groupes de loisirs. Alors là, il y a une masse de groupes de loisirs. Il y a une société de théâtre, plusieurs sociétés de musique. Il y a la société des archers, la société chorale, la société des trompettes, une société de gymnastique, une société de tir à l'arc, de pêche à la ligne, etc. Et il y a, j'ai trouvé ça dans un manuscrit, j'ai pas trouvé beaucoup de traces, un groupe qui me plaît beaucoup, c'est le groupe de gastrosophie, qui est chargé d'organiser certains repas, les menus lors de banquets. Et il y a des bals au familistère. Alors là, je lis un petit morceau. Le 25 février 1865, c'est affiché, il y aura bal public, pareil costumé, mardi prochain. La tenue doit être irréprochable. Les personnes masquées ne seront pas admises. Les costumés prenant part au bal doivent être mis convenablement et l'on ne doit pas danser en blouse. Avis 5 jours plus tard. Donc le jour où le bal devait avoir lieu, les habitants du familistère sont prévenus que l'autorité municipale a interdit le bal et qu'elle n'a pas remis d'autorisation pour qu'il ait lieu. En conséquence, j'invite les habitants du familistère à être toujours assez sages pour ne pas donner des motifs à la police de descendre chez eux. Donc, même les bals dans l'espace privé du familistère pouvaient être interdits par la police du Second Empire. Second Empire, 1865. Ce sont des mots que j'ai trouvés dans les avis divers et qui nous apportent des choses aussi de l'extérieur, quoi. Pour conclure, Godin, dans son travail, là, a toujours l'idée de voir ce qui se passe ailleurs, chez d'autres expérimentateurs, et il veut aussi être imité. Alors pour ça, j'ai prélevé dans sa correspondance 2 points qui m'intéressent. J'ai trouvé une lettre qu'il écrit à John Humphrey Noyce, fondateur du groupe Oneida aux États-Unis. Il procède complètement en enquêteur et il dit « C'est comme philosophe réformateur que je m'adresse à vous et j'espère que vous voudrez bien... » Alors, pour le groupe de Oneida, je ne vais pas préciser, mais c'est un groupe aussi un peu inspiré de Fourier, un peu différent, mais qui est un groupe à part, qui a l'idée de mener une vie en lui-même, pour lui-même, etc. C'est, un des fouriérismes américains. Donc c'est comme philosophe réformateur que je m'adresse à vous et j'espère que vous voudrez bien me répondre afin que je sois en état de propager les renseignements sociaux qui résultent de votre expérience et que je puisse profiter moi-même des réformes que vous avez faites à Oneida. Et il joint à cette lettre 25 questions, c'est quasiment un questionnaire d'enquête, réparti en 5 rubriques très précises. Par exemple, on trouve « Administration de la communauté d'Oneida ». Le système de production et de travail, l'usage des produits, règles intérieures, les relations affectives, l'éducation et la famille, le commerce extérieur, l'état général de la population. Il a compartimenter son questionnaire et il envoie ça. Donc c'est intéressant de voir Godin à la recherche de l'expérience des autres. Et ça, il le fait quand son familisté est déjà en place. Et autre chose qui me plaît beaucoup dans sa correspondance, c'est que il invite des gens de l'extérieur à venir le voir, à venir constater ce qu'il appelle sa réussite, mais il voudrait entraîner des gens à l'imiter. Et j'ai trouvé des correspondances entre Godin et un fourriériste russe qui s'appelle Nicolas Balin et qui est proche de Tchernychevski. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tchernychevski est aussi un fourriériste, mais plus révolutionnaire, disons, que les braves fourriéristes français, et qui passe une bonne partie de sa vie en Sibérie. Et Balin est en relation avec Godin pendant que Tchernychevski est en Sibérie. Et Godin donne des conseils. Il lui envoie des photos de Fourier et de lui d'ailleurs. Et il lui parle de son entreprise et il lui dit « Je serais heureux que vous puissiez non seulement traduire mon livre en russe, mais que vous puissiez aussi faire de la Russie un champ d'expérience en érigeant des familistères. » Alors, il y a eu des critiques sur le familistère. Le Play, l'urbaniste officiel du Second Empire, n'en veut pas. Il refuse la candidature de Godin à l'exposition universelle de 67. Jules Moureau est très sévère avec le familistère dans un livre. Et il dit, en parlant des gens qui habitent dans l'habitat, il dit « C'est une véritable manne qui leur tombe des cieux. Il y a dans l'établissement un dieu qui pense pour eux, un pas de plus, et on sentirait s'appesantir sur les têtes, la calotte de plomb du communisme. » Il y a aussi une ancienne communarde positiviste qui s'appelle Victoire Tiner, qui est terrible avec Godin. Elle commence par l'aduler, puis à la fin ça se termine très mal. Elle l'appelle le demi-père éternel. Et elle dit, dans cet endroit il ne manque qu'un clergé, le Dieu y est. Bon, il y a aussi des opinions très contradictoires de Engels. Dans la question du logement, première édition 1872, il voit ça comme une expérience socialiste réussie. Et deuxième édition 1887, il condamne le familistère comme un simple foyer de l'exploitation ouvrière. Mais il y a aussi des critiques positives. Benoît Malon, l'ancien communard, approuve le travail de Godin. Il dit que c'est le moyen d'empêcher les grands d'inféoder et d'exploiter. Godin a édifié sous le nom de familistère un embryon des phalanstères rêvés par son maître Fourier. Il l'a nommé palais social et l'édifice n'est pas indigne de ce nom. Il y a aussi, dans des textes que j'ai retrouvés, des réunions de la Première Internationale à Genève, des projets d'amélioration de l'habitat, et on parle d'utiliser le modèle de Guise. Il y a aussi Gustave Le Bon, qui daigne, malgré son accusation et sa critique du socialisme, dans ce qu'il appelle la psychologie du socialisme, c'est un gros livre, dans son chapitre qui s'appelle « Comment le socialisme peut être combattu », il concède quand même au travail de Godin une certaine valeur en disant « Si ces sociétés ne sont pas plus nombreuses, c'est en partie parce que leur bonne organisation demande des capacités tout à fait supérieures et par conséquent toujours très rares. » Bon, il y a l'exception mais qui confirme la règle. Il y a aussi Charles Pellerin, fourriériste, etc., qui apprécie Godin. Et il y a plusieurs romans qui ont été inspirés de Godin. Le livre « Travail » de M. Émile Zola est inspiré du familistère. Il est publié en 1901. C'est un peu, je crois, une certaine attaque, une certaine critique du familistère. Le mot « familistère » n'est pas utilisé dans ces deux textes. Hein. Et l'autre, c'est un roman américain d'une dame qui s'appelle Mary Holland, qui s'appelle « La fille de son père », traduction en français en 1880, qui est alors là complètement en admiration devant tout ce qui se passe dans le familistère. Et il y a, j'ai retrouvé, une lettre de M. Hector Malot, qui écrit à Marie Moret, la femme de Godin, à propos de son livre « En famille ».
L'enregistrement de la conférence d'Odile Vacher s'arrête malheureusement ici.